de retour à Delirium Environnemental, dernière partie d'émission. On vient de finir donc la revue de presse, revue de l'actualité. Je l'aurais faite parce que je pense que c'est important. Tous les articles, ou en tout cas la très grande majorité des articles à partir desquels on se fait souvent une tête sur les enjeux environnementaux, sont disponibles sur le site Internet, notre site Internet qui est au www.radiodelirium.net. Et également sur ce site, vous pouvez avoir accès à des centres d'information d'environnement dans la section lien à gauche de l'écran, tout comme en pesant sur le bouton ou en cliquant sur le mot archive, vous pouvez accéder aux archives depuis, il y a 3 ans. Non, depuis les débuts du site Internet de Delirium. Donc, dernière partie d'émission. Habituellement, on reçoit toujours des invités qui viennent occuper l'espace public de leurs belles voix et de leurs belles idées. Mais comme Delirium Environnemental, ce beau projet achève, en tout cas en ondes radio telles qu'on le connaît présentement, on a pensé qu'il serait agréable pour nous, ni plus ni moins, que de partager le fond de notre pensée.
Bref, on se reçoit nous-mêmes.
On se reçoit nous-mêmes, exactement. Et puis, pour briser la glace, on a décidé d'aller sur une grande question de fond. On a juste décidé de réfléchir, donc, entre nous, sur ces grandes tendances environnementales, sur des dossiers qui nous font réfléchir parce qu'ils sont révélateurs, autres que le cas comme tel qu'ils représentent, mais d'espèces de tendances ou de façons de faire qui soit nous préoccupent, nous inquiètent ou encore nous donnent du plaisir. Ou encore réfléchir à où est-ce qu'on est rendu, donc.
Donne-nous des exemples. Et où est-ce qu'on s'en va?
Bien, je ne vais pas nécessairement vous donner un exemple. Je vais permettre à Nicolas Milo de casser la glace avec cette histoire-là. Toi, Nicolas Milo, c'est la question du transport que tu avais envie d'aborder.
Mais oui, voyez-vous, avec cette belle chaleur printanière qu'on
oui,
a présentement, je me ressens un peu comme l'année dernière, où est-ce que le fameux dossier Suroît nous a mis dans la face la question de notre avenir énergétique. Malheureusement, on est toujours en train d'attendre de voir où ça va nous mener. Mais je trouve que présentement, au Québec, le dossier des transports nous amène un peu devant la même chose. Dans le fond, cette semaine, on a vu, au cours de la même semaine, des trucs passer au niveau de l'autoroute 30 à Montréal, la 50 sur le nord de l'île, donc sur la rive nord de Montréal, l'axe de la rue Notre-Dame, la 25. À Québec, c'est la 175. On nous parle.
Bingo!
Bingo, et voilà. On nous parle en même temps de trains de banlieue qu'on va prolonger jusqu'à à Saint-Jérôme, de bicyclettes dans le centre-ville, et c'est pratiquement toutes les mêmes personnes qui nous parlent de ça. Et moi, ce que je me demande, c'est comment des personnes qui, dans le fond, je réponds peut-être à la question en la posant, mais comment des personnes qui ont viré en dedans d'un an à nous parler de Suroît et d'éoliennes, et nous camoufler des trucs à boire, à Bécancour en même temps, peuvent nous parler de vélos, de trains de banlieue et d'expansion du réseau routier. Alors que de partout, plein de statistiques, plein de faits viennent leur montrer que leur logique a une limite. Il y a les environnementalistes, ceux qu'on met tout le temps dans les journaux qui critiquent le développement routier. Mais il y a beaucoup d'autres sources qui viennent. Par exemple, les économistes disent au niveau de la 175 à Québec que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est en train de se vider de sa population. Pourquoi on irait construire une autoroute entre Québec et là-bas si ce n'est que pour répondre à des conditions politiques?
Pour des impératifs les ressources?
Politiques. Oui, les ressources. Je peux en parler. Les questions de fluidité du trafic à Montréal. On nous parle d'améliorer la fluidité entre l'île de Laval et la rive nord et Montréal par la 25. En même temps, plusieurs personnes s'interrogent sur la capacité même de l'île de Montréal à recevoir plus de chars qu'il y en a déjà. On a bien beau rendre ça plus fluide, s'il y en a plus, le centre-ville, lui, on ne peut pas construire des ponts par-dessus. Ou en tout cas, ça va peut-être venir.
Peut-être un pont à 3 étages.
Mais donc, on est dans un cas où est-ce qu'on voit du cas par cas, souvent en raison d'aspirations politiques. On peut penser entre autres qu'à Laval, il y a un important capital politique libéral à maintenir. Toute la région de Gatineau, il y a encore une fois ces aspirations-là.
C'est des fiefs.
Mais bref, comment on peut discerner au travers de ces discours-là un certain discours logique. Dans le fond, je vous lance un peu la perche là-dedans pour, dans le fond, nous donner l'occasion sur le dossier des transports de réfléchir sur cette question-là. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que le mot développement durable se trouve au sein de toutes ces annonces. Donc, quelle utilisation va-t-on faire de ce si beau concept que notre cher ministre Mulcair est en train d'essayer de mettre à la sauce Québec? Comme il l'a dit si bien.
La sauce québécoise.
Sauce québécoise. Écoutez, je pense qu'on peut pas jouer à l'autruche non plus, là, ce fameux concept de développement durable et ce plan de développement durable lancé à la va-vite sans lui donner de support, entre autres monétaire. Là, il se retrouve au sein de l'ancien ministère de l'Environnement que je me permets d'appeler toujours ministère de l'Environnement parce que je suis un des nostalgiques. Mais
qui se retrouve dans parce que tu es un de ceux qui comprend bien qu'est-ce que ça veut dire, le concept de développement durable. Et donc, tu sais que c'est pas l'affaire d'un ministère. ministère.
Oui, exactement. Donc, l'idée de mettre ça dans un ministère sans lui donner la force ou les moyens, autant ressources humaines que financières, pour arriver à ses fins, à ses beaux objectifs, je crois que c'est, selon moi, puis on en parle beaucoup avec le gouvernement actuel, là, il y a véritablement un problème d'improvisation, un problème de vision à long terme au sein même de nos partis politiques. Et je crois énormément que la structure politique telle qu'elle est harmonisée présentement ou telle qu'elle existe, eh bien, fait justement en sorte qu'on a une vision électoraliste inévitablement, qu'on se retrouve dans une pensée de long terme pas plus loin que le 4 ans. Donc, aucun intérêt à développer. Je veux dire, who is the fucking stupid to tell it in English because the liberals might understand? C'est qui a pas pensé qu'on avait bombardé au Québec, qu'on a de l'électricité, qu'on importe tous les véhicules automobiles, qu'on importe tout notre pétrole? Je ne peux pas voir, je peux pas concevoir que ces gens-là n'ont pas vu ça. C'est impossible. Et on ne se cachera pas qu'il y a des lobbies à l'arrière de ça.
Et pourtant, c'est possible parce que c'est ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup de cet état d'âme que tu as partagé avec nous. Merci beaucoup de la mise au point, de recadrage, Patrick. C'était bien intéressant. D'ailleurs, c'est toi qui vas poursuivre, Patrick, et tu vas nous parler du changement d'air énergétique, RE, accent RE, d'air énergétique, duquel la planète a besoin.
Yo, pas de farce là, pas de 4x4 dans le 5x4. Hey, toi, dans ton gros SUV.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
T'as-tu pas des poules? C'est toi qui crée une bouboule.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Yo, combien de millages tu fais au galon? Dans ton camion, t'as George Bush à s'acheter des canons. Tu nous emperces avec tes émissions, des particules en suspension. Hey, champion, pense-toi un peu aux autres générations.
Hey, yo, t'as payé une maladie dans les poumons. Ta femme est stressée dans un bouchon. Ton fils s'est fait frapper par un soulon dans un Yukon. Toi, t'es le cul gros comme mon salon, gâteau vachon.
Alors, comment ça se passe sur les routes là ce soir?
Eh bien, oui, Gilles. Même si le prix de l'essence a monté, nos autoroutes restent bloquées.
C'est quoi tu veux là? Bâtir des ponts? Des autoroutes en tronçon? T'es con, c'est pas une solution.
Le gouvernement ne donne pas d'options.
Restons.
Hey, yo, j'ai des stats à l'appui, ça s'appelle du trafic induit.
Fait que j'espère qu'on s'est fait clair avec tous les propriétaires. C'est vous qui polluez la terre avec vos gaz à effet de serre.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Laisse ton camion à maison, mon frère.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Ça a pas de bon sens, faut en parler au maire.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Laisse ton camion à maison, mon frère.
Conception de MC Climatique qui est sur le site de Fait à part.
Hey,
ça vaut la peine d'aller écouter ça. Vous pouvez y avoir accès gratuitement, la télécharger, l'envoyer à tous vos amis si vous voulez. C'est au www.faitapart.net. On poursuit donc cette dernière partie de l'émission Delirium environnemental cette semaine où est-ce qu'on se reçoit, on s'entre-reçoit entre nous pour le plaisir de partager nos réflexions sur ce que suscite justement chez nous les questions environnementales. Patrick Bonnet, tu poursuis, toi, ta réflexion concernait l'air climatique, plutôt l'air énergétique dans laquelle on se trouve. On se souvient que l'évolution de l'humanité repose sur différentes grandes aires, là du charbon, là de ci, là de ça. Et donc, toi, t'en as un peu contre ça et tu appelles au changement d'air. Mais d'abord, tu lançais des pistes absolument importantes et intéressantes, à savoir, justement, toute la question politique autour de ces enjeux-là.
Ben, je veux juste vous mettre une petite toile de fond avant de m'aventurer davantage. ExxonMobil, en fait, c'est Imperial Oil, dit communément ESSO. Je vous donne les chiffres des 10 années entre 92 et 2002, les versements qu'ils ont fait au Parti libéral du Canada, 195 000 $ au Parti conservateur, 236 000 $ à l'Alliance réformiste, 226 000 $
Mais ça, c'est pas de la commandite, c'est légal, là.
Gardez ça en tête.
Ça, on appelle ça l'argent du lobby, clairement.
Ben, c'était légal. Mais en fait, ça a changé les règles là, en termes de dons aux partis politiques pour les entreprises. Maintenant, on passe par les individus. On l'a vu récemment.
Au Québec.
Au Canada. Je suis chrétien, au fond. Mais oui, Jean Chrétien, à qui on doit d'ailleurs la ratification du protocole de Kyoto. On se retrouve dans cette situation où la température moyenne au cours des dernières années, en fait, la tendance fait qu'il y a un réchauffement planétaire. Les plus grands scientifiques ou presque l'ensemble de tous les scientifiques au niveau de la planète s'entendent que c'est une tendance forte. On a une concentration de CO2, qui est un gaz à effet de serre, plus élevée que les 400 000 dernières années. Les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter et évidemment, il y a un lien entre ces émissions-là et le réchauffement de la planète. Lors d'une dernière rencontre à Exeter en Grande-Bretagne, où on avait justement de hauts dirigeants de la planète, on a un rapport qui est sorti qui parlait justement d'un potentiel point de bascule dans 10 ans. Donc, d'une concentration de gaz à effet de serre dans le ciel, ou plutôt dans l'atmosphère, pardon, qui ferait en sorte que le climat s'emballerait, si vous voulez. En parallèle de ça, on a justement l'Europe qui commence à prendre le virage et qui se sont donné des objectifs audacieux, pendant que le Canada, on va décider d'acheter des permis d'émissions de gaz à effet de serre, on sera pas capable de respecter nos engagements. Le Québec qui semble de même ne pas prendre ça au sérieux. Ça, c'est d'un côté des changements climatiques. D'un autre côté, on a la cause, entre autres, de ce réchauffement planétaire-là. On parle du pétrole. L'ère du pétrole, ne vous le cachez pas, vous tous à la maison. Plusieurs disent qu'on est en train de diminuer la production de pétrole sur Terre. Certains parlent même d'une diminution de 3% en termes de production de pétrole. On vous cache pas que le prix du pétrole a atteint des prix plus élevés que ça n'a jamais été. Au niveau du gaz naturel, c'est la même chose 60 ans. Donc, d'un côté, on se retrouve avec une situation où on a un réchauffement planétaire et de l'autre côté, on a un épuisement des ressources, donc quelque chose qui n'est pas viable. Et là, moi, je me demande, mais qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on réalise ça et qu'on sorte de la fameuse ère du carbone? Plusieurs parlent de l'ère post-carbone et vous allez m'entendre parler de plus en plus parce que notre société est présentement énormément axée justement sur une dépendance aux hydrocarbures, entre autres le pétrole et le gaz naturel. Et la question que je vous pose, moi, c'est, mais qui c'est qui va faire qu'on va se rendre compte qu'on ne peut pas continuer avec une dépendance comme ça et quand est-ce que ça va se faire?
En tout cas, moi, j'irai pas d'une réponse un peu bête en disant, en tout cas, c'est sûrement pas le protocole de Kyoto avec ses objectifs de moumoune, mais je m'excuse à toutes les moumounes de la planète qui pourraient nous écouter présentement. Le carbone, donc, la fin de l'ère du carbone, et il faut aussi un produit de remplacement. Est-ce que, d'après toi, justement, les ressources alternatives, les ressources énergétiques en énergie alternative sont suffisamment développées et disponibles pour qu'on puisse justement faire cette transition-là? Ou sinon, qu'est-ce qu'on devrait faire pour accélérer?
Ben là, c'est la fameuse pensée magique, selon moi, et c'est un piège que je t'avais tendu. Eh bien, oui, la fameuse pensée magique qui pense que la technologie va faire en sorte qu'on va s'en sortir, oui, probablement qu'à long terme, on va développer des technologies intéressantes, mais à court terme, on a déjà des moyens qui nous permettent justement de diminuer notre consommation énergétique, de diminuer nos c'est besoins sûr. Énergétiques, tandis que ce qu'on attend principalement comme discours, c'est pourquoi George Bush a fait la guerre en Irak, c'est justement pour augmenter, pour assurer ses provisions, si vous voulez, en pétrole. Donc, la logique de base, selon moi, c'est justement de sortir de cette ère-là et de se rendre compte qu'entre autres Nord-Américains que nous sommes, consommons beaucoup plus d'énergie. Écoutez, le Canada, on est deuxième plus gros consommateur d'énergie par tête de pipe après les États-Unis. Et oui, il y a une raison qui est peut-être parce qu'on a des grands territoires et tout, mais ce n'est pas tout. On se le cachera pas, là, je veux dire.
Donc, c'est vraiment plutôt que de penser à comment remplacer notre consommation, vraiment réfléchir notre consommation d'énergie et se dire que peut-être que cette consommation-là, peu importe la source, c'est peut-être pas viable.
Ben, c'est à la base, rapidement, c'est à la base, évidemment, une diminution, mais il y a déjà des alternatives qui existent, il y a déjà des moyens de faire quelque chose, et souvent, quand on se dit, on va attendre une nouvelle technologie ou qu'est-ce qui va nous sauver, on attend et on met pas les choses en place comme le Canada fait présentement quand il y a déjà plein de moyens et qui fait rien ou presque avec son projet vert.
Ben, moi, j'appelle même plus ça une nouveauté, là, de l'éolien, du solaire, ou c'est plus nouveau, là. On s'entend que on devrait pouvoir compter là-dessus comme technologie alternative. En tout cas, dans ma question, c'était un peu mon propos.
Mais à ta question, qu'est-ce que ça va prendre pour sortir de cette ère-là? Le problème, c'est que l'humanité a souvent eu besoin d'un coup de pied dans le cul ou d'un coup de poing sur la gueule pour sortir d'une période de son histoire. On se souvient, en 72, l'ONU avait commandé un rapport, le fameux rapport Meadows, puis qui disait que...
Halte à la croissance.
Halte à la croissance, et qui nous dit que notre propre génération, on va être en plein ceux qui, au cours de notre propre vie professionnelle, donc où est-ce qu'on est considéré comme valeur commerciale forte et marchande pour notre pays, eh bien, on va assister à une diminution de la production industrielle, une diminution de la population, parce que les matières premières vont manquer. Et c'est un peu troublant, et peut-être qu'avant que cette claque sur la gueule-là nous arrive, il y a des petites questions qu'on peut se poser à tous les jours. Vous savez, on est la première génération au monde, occidentaux que nous sommes, membres de ces pays riches que l'on considère plus riches que les autres, malheureusement, qui ne pourront même pas assurer à nos propres enfants de pouvoir visiter le monde.
Dépendamment de comment ils font.
Mais vous voyez, on va se ramener à quelque chose de très, très banal. Tout le monde ici, on a les moyens de visiter le monde, de prendre l'avion, de s'en aller ailleurs.
En tout cas, on est capable de se donner les moyens d'avoir les moyens.
On est capable de donner les moyens.
On peut s'endetter.
On est la première génération occidentale à ne pas pouvoir promettre ça à nos enfants.
Mais pourquoi? Sur la base de quoi? Parce qu'on n'aura pas assez d'argent? Il n'y aura plus d'avions?
Sur la base que présentement, on a une recette qui marche au niveau international. Le pétrole est rentable. Ces gens-là n'ont absolument aucun intérêt à promouvoir d'autres technologies. Et le le gap de temps, excusez, l'intervalle de temps entre ce qu'on fait aujourd'hui pour se déplacer, entre autres, et les nouvelles technologies, ben, il va y avoir un espace entre les deux au rythme où on fait les choses, c'est-à-dire de ne absolument rien faire et de ne rien changer à nos pratiques. Et on ne peut pas permettre à nos propres enfants la même qualité de vie dans laquelle on vit présentement.
Ça, c'est si on est capable d'en avoir des enfants, si on n'est pas rendu des mutants sexuels. Et de retour à Délirium environnemental, dernière partie d'émission, où est-ce que je me répète, mais je le redis encore, d'où le mot répétage. Cette semaine, on se reçoit soi-même, parce que, comme vous savez peut-être, ça fait déjà 3 ans qu'on fait Délirium environnemental. En dernière partie d'émission, on reçoit toujours plein de monde, puis là, c'est notre tour. Puis là, en plus, c'est mon tour à moi, Sofiane Legendre au micro, fière de prendre la parole, pour
Chère
vous dire
Sophia,
que personnellement, je suis de naturel émotif. D'ailleurs, ça me vaut souvent des critiques et ça fait que certaines personnes autour de moi ont de la misère à vivre en ma compagnie. Chez Tappen, j'ai le goût de répondre. Ça a aussi des avantages. Moi, quand je vous écoute parler, les gars, de toutes ces questions-là, par rapport, par exemple, Nicolas, les points que tu faisais ressortir sur justement le fait qu'on continue de faire du cas par cas, le fait que de référer à des études comme vous le faites, puis de dire « plusieurs études nous disent que ça va pas bien. Plusieurs études nous disent que ça va mal. » Moi, j'ai l'impression que collectivement, on est cave. Colin, franchement, plus il y a une personne à réfléchir à un problème, faut croire, puis plus on devient niaiseux. Parce que là, sur les questions environnementales, ça fait 30 ans qu'on en parle. Tu parlais tout à l'heure du rapport Halte à la croissance, le rapport Meadows, qui justement appelait, lançait un cri d'alarme on ne peut plus clair sur la limite et la fragilité des différents écosystèmes et que les modes de développement, de consommation et d'exploitation actuels ne permettraient pas de tenir la route bien, bien longtemps. J'ai l'impression qu'on a beaucoup opérationnalisé toutes ces questions-là pour essayer d'y réfléchir et d'en parler sous une forme multidisciplinaire, mais qu'on oublie trop souvent qu'à la base, on est des êtres pensants, dotés supposément d'une intelligence, et que la question à laquelle on devrait répondre, c'est « comment voulons-nous vivre? » Tout simplement, comment voulons-nous vivre? Peu m'importe que les OGM contaminent ou puissent empoisonner ou soient hypoallergènes ou je ne sais trop exactement, est-ce que je peux déplacer le cadrage du problème puis dire, moi, le fait que 5 multinationales possèdent l'ensemble des graines sur la planète puis puissent se permettre de taxer tous ceux qui veulent avoir des semences traditionnelles, moi, pour moi, ça ne marche pas. Ça sonne une cloche, c'est croche, ça ne marche pas. Donc, j'ai l'impression que si on essaye de rentrer justement dans cette guerre-là des chiffres, ben on évacue justement les autres questions, les questions qui sont plutôt d'ordre moral, de dire, peu m'importe les pertes économiques que ça va vouloir dire pour les compagnies, par exemple, semencières d'OGM, ça me dérange pas, moi, en tant qu'individu. Moi, en tant qu'individu, j'ai le goût de vivre sur une planète où est-ce que d'abord, on va pouvoir continuer d'avoir des enfants parce qu'on va pas se faire dire, on est trop, on peut plus en avoir, ou parce qu'il faut-il se le redire, en Occident, on consomme 90% des ressources de la planète? Je veux dire, tant qu'on n'aura pas répondu à ce problème-là, que nous consommons 90% des ressources de la planète, parlez-moi pas de développement. Voyons quel genre de développement, quel genre d'équité, de vision d'équité du développement on peut avoir en espérant sortir des populations du trouble. Pourquoi exactement être capable de construire une planète en parallèle? Bref, c'est ma petite... C'est mon impression et c'est pour ça aussi que je disais l'état de la planète m'inquiète, c'était un peu le titre pour ouvrir le bal, mais aussi par rapport à ce que j'ai entendu la semaine dernière autour de Kyoto. Moi, je trouve ça aberrant. Kyoto est cité en exemple beaucoup. On dit « Ah, c'est bien ». Rappelez-vous des autres choses qu'on s'était dit « Ah, c'est bien, c'est des dossiers exemplaires, les plus acides ». On a appris il y a 2 semaines que la lutte sur les plus acides, là, caduque, ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a encore des grandes aires qui sont complètement disséminées par les plus acides.
Sauf que les plus acides, là, c'est que les effets sont plus à plus long terme aussi. Il y a quand même des réductions. Le Québec a tenté de camoufler ces réductions, là, mais
pas suffisamment.
Je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est pas là qu'on veut aller.
Non, tout à fait. Puis cette semaine, justement, on me disait beaucoup il faut beaucoup se concentrer sur les solutions, essayer d'outiller les citoyens et citoyennes à ce qu'ils deviennent des gens responsables, éco-citoyens, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, mais tant qu'il y a des compagnies américaines qui vont venir vider les nappes phréatiques du Québec, tant qu'on va viser des objectifs comme ceux du protocole de Kyoto en se pétant les bretelles parce qu'en fait, on peut acheter de la pollution de nos jours, tant qu'on va continuer d'agir de cette façon-là, réfléchir de cette façon-là, je vais rester pessimiste. Les gars, je vous offre le micro si vous voulez me dire qu'il y a plein de raisons de rester positive et de voir ça d'un bon œil. Allez-y, ça va me faire plaisir. Mais malgré tout, je garde le sourire.
Mais ça serait facile de, je pense, rester dans ce pessimisme-là. La chose que j'aimerais soulever, dans le fond, je te dirais, j'ai aucune réponse à ta question. Je pense que personne ici l'a. Le seul problème, c'est que là, présentement, autour de la table, on est tous bien d'accord. Mm. On partage essentiellement le même créneau de langage. Dans le fond, on vit un peu tous dans la... sous une même idéologie. Le problème, c'est que si on invitait autour de la table les personnes qui vivent selon cette idéologie-là qu'on conteste et qu'on essaie d'avoir la même discussion, probablement qu'on se rabattrait dans un discours qui est « je suis pas d'accord ». Mais je pense qu'on peut dépasser cette position-là puis essayer de voir comment qu'on peut rejoindre ces gens-là. C'est peut-être pas faisable, mais si on essaye, il y a peut-être quelque chose-là de plus positif que de simplement rester dans ce constat-là que ben il y a deux grandes idéologies, le néo-capitalisme d'un côté, puis tous les gens qui aspirent à un monde meilleur de l'autre.
Ah, mais moi, je suis pas sûre que je suis prête à faire. Moi, je veux dire, je vis dans le système capitaliste, puis il y a bien des positions que certaines personnes autour de la table ont sur des façons d'agir face à l'environnement que je trouve extrémistes, mais je m'inquiète quand même de, politiquement, les solutions qu'on met en place.
Ben moi, j'en reviens. J'ai rencontré Barry Reeves une fois dans ma vie. J'ai eu l'occasion de l'interviewer. Je sais même pas si c'est encore sur notre site web. Peut-être aller voir ça si c'est là. Et de mémoire, ce qu'il disait, c'est justement, regardez, les multinationales sont là. Les gouvernements ont de moins en moins de puissance comparativement aux multinationales. Et malheureusement, moi, je me rallie un petit peu à cette idée-là qu'il va falloir faire avec et qu'on pourra pas changer du jour au lendemain. Je ne crois pas que l'évolution va se faire de façon drastique, quoi que je le souhaite, mais de façon réaliste, en voyant qui tire les ficelles de notre planète, je crois qu'il va falloir faire avec, il va falloir éduquer ces gens-là. Et on a quelque chose qui est aussi épeurant qu'encourageant, qui s'appelle la décennie de l'éducation au développement durable, qui est très critiquée en termes terminologiques, si vous voulez, mais qui montre quand même qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire et qu'il va falloir les embarquer dans notre bateau. Et de plus en plus, on voit des entreprises qui sont, parce qu'on souvent on se le cachera pas, c'est un problème de production, comme c'est un problème également de consommation. Donc l'éducation, ça va dire rejoindre les décideurs qui sont à la tête de ces entreprises-là, comme les consommateurs, selon moi.
Peut-être qu'individuellement, on peut essayer de faire l'exercice suivant. Essayons dans les prochains jours, mois, années, de redéfinir ce qui est pour nous notre échantillon de valeur, que ça se définisse autrement qu'en dollars, euros, or, et que ça soit peut-être plus qualité de vie, santé. Yeah, yeah.
Ça va être déjà la fin de Délirium environnemental. Sur le dernier point, Nicolas Milo, tout à fait d'accord. Le glissement et le fait que la logique économique et même le parler économique s'immisce partout dans nos vies, c'est dramatique. Et ça,
je mettrais commercial contre mot désolé.
Oui, tout à fait, tout à fait. Hey, c'est déjà la fin, donc ça va être les coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Un beau moment pour se faire plaisir, messieurs.
Eh bien, parce que c'est la fin, je vous en envoie en rafale et ça commence par des coups de masse. Je ne comprends pas pourquoi on a encore des avions pub à Montréal. Comment ça que ça existe?
Ça?
Des camions publicitaires. Comment ça que ça existe? Je comprends pas. Pourquoi on coupe le gazon sur les autoroutes? Je ne comprends pas ça encore. Une lumière rouge en pleine nuit, j'aime pas ça. Ça n'a pas de but. Changez-moi ce système. Et je continuerai, mais je vous laisse un peu y aller.
Les camions publicités aussi, c'est assez terrible. Coup de cœur, coup de masse. Moi, j'irais d'un coup de masse à l'endroit d'une fierté québécoise, Alcan. Alcan pour leur manœuvre tout à fait antidémocratique qu'ils sont en train de faire pour exploiter une mine de bauxite en Inde, dans le Kashipo plus précisément. C'est assez écœurant. Plusieurs activités qui vont avoir lieu autour de la campagne justement Solidarité Alcan India. Tout ça sera sur notre site internet, entre autres mardi le 26 avril, qui vient une belle activité à suivre.
Eh bien moi, coup de masse, on vous a parlé brièvement de la rue Notre-Dame à Montréal. Vous savez, on vous a parlé d'un projet hybride entre l'autoroute urbaine, style Descaries, ou le boulevard urbain, c'est-à-dire Taschereau. Eh bien là, ça va être un peu entre les deux, mais on parle d'infrastructures multi-étages, donc des passerelles pour les routes, pour les voitures au-dessus de la route même. Désolé, mais on est en train de défaire l'échangeur des pins. Le retour à l'architecture fonctionnaliste des années 60, là, on est en train de la remettre en question. Donc, faites-en pas un autre exemple dans l'est de l'île.
S'il vous plaît.
Belle initiative à regarder cet été à Montréal. Les ruelles vertes signalisées par de nouvelles petites affiches. Ça va être un petit peu partout à Montréal. Et je vous signale également la route verte, qui est mon deuxième coup de cœur. Eh bien oui, prenez votre vélo cet été. Allez vous promener, découvrir le Québec à vélo. C'est beaucoup plus sympathique.
Écoutez, deux activités qui valent la peine d'être soulignées. Juste pour dire que l'initiative des ruelles vertes, c'est pas l'éco-quartier du plateau Mont-Royal qui s'occupe de ça. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, à ma souvenance, me semble que oui. Mais je suis pas sûre, alors j'en dirai pas plus. Une activité pas mal le fun autour du jour de la Terre cette année. J'ai été pas mal impressionnée. D'après moi, c'est ça le déplacement des mobilisations. Ça va être aussi des mobilisations festives, comme en fait beaucoup la promotion Loco-Locas. Le jour de la Terre, donc, vous invite à venir danser en grand nombre, bien sûr, à E égale MC2. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le premier danse-auton. C'est une future tradition annuelle au profit de l'environnement. La formule parrainage demande aux participants de se faire commanditer par son entourage pour un total de 50$ par participant, 25 pour les étudiants. Donc, vous achalez vos amis pour qu'ils vous payent pour aller danser toute la soirée à la SAT, en fait, toute la nuit, parce que c'est le 22 avril, vendredi le 22 avril, jusqu'au samedi 8h du matin. Et tout ça, ça se passe à la très chic SAT, la Société des arts technologiques, ce vendredi. Tenez-vous informés.
Si vous voulez entendre parler, Monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal, conférence Montréal et la crise de l'environnement, ce jeudi 21 avril à 20h. Le lieu, c'est Notre-Dame de la Salette, 3535, avenue du Parc, 282 Vert, pour avoir l'information, 282 Vert. Monsieur Tremblay et Montréal, la crise environnementale.
Et puis, fais-tu compas sur le levier, Jean-René Duport? Tout ça pour dire que toutes les belles informations que tu viens de donner, ça va être sur notre site. Ceux qui voudraient avoir plus d'infos, www.radiodelirium.net. Coup de cœur, coup de masse ou au calendrier?
Une petite suggestion de lecture, peut-être? On vous parle souvent de grands concepts, et bien j'en ai un bon petit pour vous. Le livre Le développement durable de Hassan Slim, c'est à la collection Idées reçues. Souvent, on confronte des grandes idées telles le développement durable dans ce cas-ci avec les différentes opinions publiques qui ont un lien avec cette idée-là. Donc, allez voir ça pour se faire une belle petite tête sur le développement durable. Là, je parle pas d'aller chez le coiffeur.
Non, je comprends pas ce que tu veux dire, se faire une tête. C'est pas une affaire de brushing. C'est vrai qu'avec le vent aujourd'hui, le brushing, ça tient pas pantoute. Excusez-moi. Hey, c'est déjà la fin de l'Irium environnemental, heureusement, parce que j'en disais des grosses niaiseries. Il fallait que ça finisse. Avant de remercier tout le monde, je vous invite juste à découvrir le mouvement de manifestation artistique. Et pour ça, il faudra venir sur notre site internet qui est au www.radiodelirium.net. L'émission cette semaine, c'était rendu possible grâce à Nicolas Mulot ainsi que Patrick Bonin. Merci beaucoup de votre regard sur la chose environnementale. Étienne Côté-Paluc, comme d'habitude, à la régie, la mise en onde et à la conception du site Internet et à la cyberlettre qui vous sera envoyée dès demain, j'imagine. L'équipe, c'est aussi Nicolas Mainville ainsi que Hugo Lachapelle qui seront de retour la semaine prochaine. Moi, c'était Sofiane Legendre. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver une foule d'informations sur notre site Internet. Hey, c'est la journée de la Terre cette année? Non, cette semaine.
Tout le temps.
Tout le temps, c'est vrai.